Ce matin, mon but n'est pas de faire grincer des dents, peut-être grincer des bancs une dernière fois, mais nous allons aborder... Hop. Bouton du milieu. Voilà. La suite de Colossiens, et avant ça, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous avons chanté, nous avons lu, nous avons prié que tu ne changeais pas. Et cela est un sujet extraordinaire d'espérance pour nous, puisque tu nous aimes d'un amour inaltérable. Et tes promesses sont vraies aujourd'hui et demain. Ta parole aussi est vraie aujourd'hui et demain. Et Seigneur, nous te prions que tu puisses nous renouveler, transformer nos cœurs et que nous puissions être à ton écoute, spécialement dans le domaine de nos relations familiales et personnelles. Amen. Alors, je vous propose de prendre Colossiens 3, versets 18 à 4, verset 1, que nous allons lire. Et j'aimerais qu'on commence par le verset 17 du chapitre 3. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acceptation de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Après avoir décrit dans la première partie des Colossiens des réalités spirituelles merveilleuses, l'apôtre Paul nous amène maintenant sur le terrain de la théologie pratique, terre à terre. Après avoir exposé qui était Christ et les droits qu'il nous avait acquis si nous lui appartenons, nous avons vu dimanche dernier avec Philippe les devoirs personnels du chrétien, à savoir de faire mourir dans nos membres. Et ici, nous allons voir les devoirs relationnel. Alors j'aimerais commencer par vous raconter une histoire que vous avez sûrement lue ces derniers temps dans Méditation quotidienne. Alors je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou une fiction, mais elle est intéressante. C'est l'histoire du porte-avions USS Lincoln. Voilà, c'est ça l'USS Lincoln. Un groupe aéronaval américain reçut un appel du bâtiment A-853 lui demandant de dévier de 15 degrés sud pour éviter un risque de collision. En réponse, le responsable du groupe aéronaval demanda au bâtiment A-853 de dévier lui-même sa route de 15 degrés nord pour éviter la dite collision. A-853, refusant d'obtempérer, le commandant du groupe aéronaval reprit de plus belle. « Je suis le commandant du porte-avions USS Lincoln, de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes escortés par 2 cuirassés, 5 croiseurs, 6 destroyers et 4 sous-marins. Nous nous dirigeons vers les eaux du golfe Persique. Nous vous ordonnons de dévier votre route de 15 degrés nord. Obéissez immédiatement et sortez de notre trajectoire. Je suis le permanent du phare A853, sur la terre ferme, au cap Finistère, sur la côte de Galice, et je vous demande de dévier votre route de 15 degrés sud. Intéressant. Parfois, on fait fausse route. Dans les relations qu'on entretient avec les autres, et cela peut devenir dangereux. Il est aussi important d'avoir de la considération pour les autres et d'être dans une relation saine et équilibrée. Ce matin, pour la plupart d'entre nous, ce qu'on va aborder seront des rappels de principes que nous connaissons déjà. Néanmoins, il me semble qu'il est toujours utile de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu, particulièrement sur le terrain des relations familiales, afin de pouvoir progresser encore et encore sur ce chantier qui ne se terminera qu'une fois au ciel. Alors nous sommes invités, d'après Romains 12, à ne pas nous conformer au siècle présent du 21e siècle, mais à nous laisser transformer et renouveler dans notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Et il est intéressant de constater que, quand on lit ce texte, il y a des choses qui nous interpellent par rapport à ce qu'on peut voir autour de nous, mais il est aussi intéressant de constater que cela était vrai aussi pour les Grecs de l'époque à qui Paul écrivait. Puisqu'à l'époque, la famille était centrée autour du père, tout puissant, ayant tous les droits sur la famille. Ainsi, nous pouvons considérer le modèle qui nous est donné ici comme un modèle normatif qui fait foi pour nous aujourd'hui, car il dépasse les cultures. Alors le texte balaie trois types de relations mutuelles sur lesquelles nous allons nous arrêter plus ou moins longuement. Et cela nous fait aussi réaliser l'importance pour Dieu du foyer chrétien. Nous allons voir la relation entre la femme et le mari, la relation entre l'enfant et les parents, et la relation entre l'esclave et le maître. Et c'est vrai que là, dans le foyer grec, les esclaves faisaient partie du foyer. Ils étaient dans l'intimité du foyer. Et nous ferons, en tout cas pour notre application, une extension sur la relation employé-patron. Je pense aussi que chacun d'entre nous, nous avons été, sommes aujourd'hui ou serons demain concernés par l'une ou l'autre des relations, soit directement, soit peut-être indirectement, et peut-être que nous aurons à conseiller l'un ou l'autre sur un type des relations qu'il sera appelé à vivre. La relation femme-mari. Alors, il y a d'autres textes qui sont très proches de celui-là, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est quelque chose qui est normatif, puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et on va lire Éphésiens 5, versets 22 à 25, qui nous apporte aussi quelques compléments. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Honneur aux dames. Chères sœurs, nous sommes dans un contexte de femmes mariées. Et je rappelle, comme Philippe l'a fait dimanche dernier, que le mariage est le cadre voulu par le couple. J'ai dit quoi ? Par le couple et par Dieu. Par Dieu, bien sûr. Femme, soyez soumise. Expression difficile à appréhender pour nous aujourd'hui, car lourde, lourde de préjugés et lourde, je tiens à le dire, d'abus centenaires. Alors, définition de la soumission. On revient au grec, je ne suis pas un expert, j'ai demandé quelques conseils. Mais le terme employé là, c'est hupotago. Hupotago, étymologiquement, veut dire marcher en dessous. D'accord ? Ça ne veut pas dire être écrasé en dessous. Hein ? Ça veut dire marcher en dessous. Un sens plus explicite, est, il y a un terme militaire grec du sens de placer des divisions de troupes d'une manière militaire, sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Nous sommes donc ici dans le cas d'une soumission qui vient de la femme. Une soumission volontaire et choisie, qui n'a rien à voir avec une soumission forcée et subie. Nous sommes ici dans le cadre d'une soumission volontaire et choisie. C'est une soumission à une autorité voulue. De nos jours, en France, dans le milieu chrétien, la femme a pu choisir son mari. Ce n'est pas une action ponctuelle sur un sujet précis, mais c'est plutôt une attitude d'amour quotidienne, dans le but d'assumer des responsabilités avec son mari. C'est être le soutien de son mari, car elle a été créée par Dieu à partir de la côte de l'homme, comme dit Genèse 2, verset 21, c'est-à-dire de ce qui lui permet de se tenir debout. Alors, maintenant qu'on a défini ça, il y a plein de cas de figure différents. Ça, c'est le modèle voulu par Dieu. Il y a des remarques dans la parole, par exemple, sur les maris non chrétiens. Et on voit ça en 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires, il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. D'un côté, l'absence de mari, on le voit dans ce texte, voire de la femme à l'opposé, on verra par la suite, ne dispense pas d'assumer la mission que Dieu nous confie. Mais d'un autre côté, je tiens à préciser que le texte nous dit « Soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur ». C'est-à-dire que je pense que Dieu n'est pas légaliste et qu'il n'impose jamais une relation qui peut devenir malsaine ou destructrice. Alors, quand on parle de soumission, on parle de soumission à une autorité. Et il n'est pas possible de dissocier les deux. Ainsi, la manière dont l'autorité est exercée est capitale pour aller plus loin dans l'idée biblique. Et on en vient à nous les hommes. Marie. Dieu a souhaité que l'homme soit le chef de la femme dans le couple. Cela est une vérité biblique et un ordre créationnel. Mais cela ne permet pas de justifier une démission ou des abus. Deux écueils. Une autorité qui pourrait être absente et qui pousserait la femme à prendre la place de l'homme puisqu'elle n'est pas assumée par le mari. Deuxième écueil, une autorité tyrannique, comme s'il était écrit « Marie, soumettez vos femmes », ce qui n'est absolument pas le cas. Une autorité tyrannique qui va pousser la femme à la rébellion ou bien à l'anéantissement d'elle-même et à la négation d'elle-même. Alors, on aime bien Blaise Pascal dans le milieu chrétien, et je vous propose qu'on prenne un de ses textes qu'il a écrit sur le pouvoir, qui est très instructif pour trouver le bon équilibre pour exercer l'autorité. Et ce texte, d'ailleurs, a été pris en référence du dernier article de Servir qui parle justement du pouvoir et de ses pièges. Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. Et ayant beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. D'abord, il ne savait pas quel parti prendre, mais il se résolut enfin de se prêter à sa bonne fortune. Il reçut tous les respects qu'on lui voulut rendre, et il se laissa traiter de roi. Mais comme il ne pouvait oublier sa condition naturelle, il songeait, en même temps qu'il recevait ses respects, qu'il n'était pas ce roi que ce peuple cherchait, et que ce royaume ne lui appartenait pas. Ainsi, il avait une double pensée, l'une par laquelle il agissait en roi, et l'autre par laquelle il reconnaissait son état véritable, et que ce n'était que le hasard qui l'avait mis en place là où il était. Chers frères mariés, il est important de se rappeler que l'ordre créationnel ne dépend pas de l'homme, mais est uniquement une décision du hasard avec un grand D, c'est-à-dire de Dieu lui-même. C'est important aussi de se rappeler et d'exercer l'autorité, d'assumer ses responsabilités sans en abuser, car conscient de ce que nous sommes. Alors, on va prendre deux exemples d'autorité. La première, l'autorité policière. Je dis bien l'autorité policière, comme elle a été créée. C'est, on le voit sur ce, en haut là, c'est assister, servir et protéger. Ce qui est différent de décider à la place d'eux. Ou de vouloir passer en force, comme a essayé de le faire le commandant de l'USS Lincoln. Exercer une autorité sur quelqu'un, c'est prendre en considération par le dialogue ses besoins et ses désirs véritables afin d'agir pour son bien. Mais cela va encore plus loin. Et là, c'est la parole qui nous y invite. On l'a lu dans Éphésiens 5 tout à l'heure. L'autorité selon la Bible, c'est aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ pour l'Église ? Il s'est donné lui-même pour elle. Jusqu'à en mourir. Un mari chrétien doit être prêt à mourir pour sa femme. Et c'est vrai aussi et surtout dans le quotidien. Des exemples parmi un milliard d'autres. Être prêt à renoncer au match de foot entre copains parce que notre femme a besoin de nous à la maison ? Compliqué, hein ? écouter sa femme plutôt que la radio dans la voiture. Ça parle qu'à moi, ok. Prioriser le couple plutôt que les loisirs. Se remettre en question pour des mauvaises décisions, des mauvais comportements. Renoncer à s'enfermer dans notre coin ou sur notre ordinateur, comme nous le rappelait Philippe la semaine dernière. Assumer notre mission de leader dans le couple plutôt que de démissionner, comme a pu le faire Abraham dans le conflit qui l'exposait, qui était entre Sarah et Agar, et qui n'a pas tranché. Le texte parle de ne pas s'aigrir. S'aigrir, c'est quoi, c'est les cornichons, c'est... Français courant nous parle de ne pas montrer de la mauvaise humeur à nos épouses. Exercer une autorité, l'autorité sur sa femme, c'est mourir à mes désirs naturels et parfois légitimes parce que je considère ma femme comme prioritaire. Dieu nous a confié comme première mission, chers frères, avant nos enfants, de prendre soin de nos femmes. Pour résumer, chers frères mariés, nous voilà devant un programme de vie qui ne peut pas nous laisser assis dans nos canapés. Chères sœurs mariées, un des plus beaux actes d'amour pour ton mari est de choisir de te soumettre à lui. Une citation de William Arthur Ward. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. J'ai été particulièrement frappé, ça sera ma dernière remarque sur cette relation, par la réciprocité qui se dégage de ce texte. Réciprocité dans laquelle tout devient possible. Le couple chrétien, c'est un divin équilibre entre un mari qui protège et sert sa femme jusqu'à s'oublier lui-même et une femme qui se soumet volontairement et joyeusement à cet homme qu'elle a choisi et qu'elle choisit d'épauler jour après jour. Brièvement, les autres relations. Enfants, parents. Quand on reprend les 10 commandements, le 5e commandement, alors les 4 premiers commandements s'adressent à la relation entre moi et Dieu. À partir du 5e commandement, Dieu nous demande de regarder les relations horizontales. Et le 5e commandement, donc le premier commandement horizontal, est « Honore ton père et ta mère ». Exode 20, verset 12. Les enfants ont pour mission d'obéir à leurs parents. Et là, on est très 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 loin de l'enfant roi à qui on laisse tout passer. On en est loin. Deuxième remarque. Je remarque que quand on devient adulte, c'est mon cas en ce moment, on reste enfant. Et accompagner ses parents qui vieillissent est une très belle façon de les honorer. Et on a beaucoup de témoignages dans notre rassemblement et c'est un vrai encouragement aussi de le voir vivre. Les parents. Il nous est dit de ne pas décourager nos enfants. Ne pas être trop exigeant. Ne pas vouloir aller trop vite. Être patient et juste comme Dieu l'est avec nous. Une citation de l'écrivain du XVIIIe siècle, Joseph Joubert, qui était au passage le secrétaire de Diderot. Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. Alors j'ai deux petits exemples à mon niveau. Un jour, après la pluie, je montre un arc-en-ciel à Elliot au travers de la vitre. Alors, je voulais lui commencer à lui dire toute sa signification. Et lui, il commence à s'extasier. Et en fait, j'ai remarqué qu'il était fasciné par les gouttes qui étaient sur la vitre. Un deuxième exemple. Je pense qu'en tant que parent, c'est important de regarder la progression plutôt que le résultat final de nos enfants. On est dans les dictées là avec Chloé, voilà. Passer de 18 fautes à 5 fautes sur une dictée est mieux, beaucoup mieux, que passer de 0 faute à 4 fautes. Vous êtes d'accord ? Je le refais, Pierre. Passer de 18 fautes à 5 fautes est mieux que passer de 0 fautes à 4 fautes. La progression plutôt que le résultat final. Et là, je pense que pour nous, parents, on a un sujet de prière. C'est d'être le père ou la mère que Dieu souhaite que nous soyons pour nos enfants. Et ça ne veut pas dire être un père parfait ou une mère parfaite. Ça veut dire d'être un père aimant, une mère aimante, à l'écoute, et pouvant, parfois, se remettre en question et savoir demander pardon quand cela est nécessaire. Et là aussi, il y a une réciprocité nécessaire, car il n'y a pas d'amour sans obéissance de l'enfant, mais il n'y a pas d'obéissance sans amour des parents. Troisième relation, esclave-maître. Il y a beaucoup de textes qui parlent de cette relation, hein, dans le Nouveau Testament. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le foyer grec, les esclaves font partie du foyer. Et il est très instructif de voir que Dieu il est très intéressant de voir que Dieu ne les oublie pas. Ils ont leur place dans le cœur de Dieu, comme les orphelins, comme les pauvres, et on voit ça dans le Lévitique. Ils ont une place dans le cœur de Dieu. Mais ils ont aussi une part de responsabilité proportionnelle et ils ne peuvent pas s'y soustraire. Dans la parole, il n'y a pas de favoritisme, pas d'assistanat, pas d'excuses sur les responsabilités demandées et ce, quelle que soit notre situation sociale. Alors nous allons faire une extension. Là aussi, sur une relation qu'on connaît bien, la relation employé-patron. Employé, servez Christ, le Seigneur. Quelle belle mission que de réaliser que nous servons Christ dans notre travail. Notre témoignage en acte, par la compassion, bien sûr, mais aussi la qualité de notre travail et l'honnêteté avec laquelle nous essayons de le réaliser. L'autorité terrestre est voulue par Dieu sur ses enfants, celle des patrons, celle des autorités, pour nous apprendre à chacun d'entre nous la soumission. Et cela va même pour des patrons pénibles. 1 Pierre 2, verset 18. « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont pénibles. » Beau challenge. Le texte parle de, et nous invite, à faire toute chose de bon cœur, comme pour le Seigneur. On parle ici de tâches peu attrayantes. On peut parler, entre autres choses, du ménage dans l'église, de sortir la poubelle un soir d'hiver, et je pense qu'il y a plein d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Et dans toutes ces choses, ce texte nous invite et nous rappelle que Dieu récompense non le résultat, mais la fidélité. Dieu récompense non le résultat, mais la fidélité. Voilà, alors après avoir vu ces trois relations, je pense que on a chacun au moins un chantier devant nous, voire plusieurs. Et peut-être nous pourrions nous arrêter quelques instants et nous mettre devant Dieu pour lui demander quel chantier relationnel est prioritaire aujourd'hui, pour moi, maintenant. Faisons silence quelques secondes. Alors maintenant que l'on a dressé la feuille de route, et il y a un beau programme, comment on y arrive? Comment on fait? Je pense que l'unique moyen d'atteindre les standards de Dieu dans l'une ou l'autre de ces relations, c'est de s'investir à 200% dans une quatrième relation, qui est celle entre Dieu et moi. Alors, plusieurs points. La première chose, et toute l'Épître aux Colossiens nous parle de ça, c'est de vivre réellement la supériorité de Jésus-Christ dans nos vies. Quelques extraits de ce qu'on a déjà vu. Colossiens 1, verset 14. « Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. » Colossiens 2, verset 10, « Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union à lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. » Notre attachement au Seigneur, au Seigneur, et le mot est important, au Seigneur Jésus, implique une soumission à lui et une obéissance à ses commandements. Car là encore, il n'y a pas d'amour véritable sans obéissance. 1 Jean 4, versets 20 et 21. « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, ou sa femme, ou sa mère, ou son collègue, ou bref, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Mustapha et Philippe l'ont déjà souligné dans les messages précédents, mais là encore, un deuxième aspect pour nous investir dans cette relation entre Dieu et moi, c'est qu'il est absolument nécessaire de regarder les choses d'en haut plutôt que de celles d'en bas. De mettre en perspective notre relation céleste dans nos relations terrestres. Nous sommes invités à faire ici-bas ce qu'il convient au Seigneur, ce qui est agréable au Seigneur, ce que notre respect du Seigneur nous pousse à faire dans nos relations personnelles. Ce passage nous invite donc à vivre dans la soumission et l'amour mutuel, dans la famille, car cela est un fruit de notre obéissance et de notre soumission au Seigneur Jésus. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Notre relation avec Dieu transforme toutes nos autres relations. Alors, j'aime bien schématiser les principes, et je sais que Liliane aime bien aussi les schémas. Alors, je vous propose ce matin un schéma. Premier schéma, Dieu t'aime. On est d'accord. Dieu t'a même tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ descendre et mourir sur terre et venir te chercher dans ta situation de perdition pour te prouver son amour. En réalisant cela, tu désires connaître mieux ce Dieu d'amour. Alors tu t'approches de lui. Tu apprends à le connaître. Et c'est à son contact que Dieu détruit ton égoïsme. Ainsi, Dieu te transforme pour pouvoir aimer les autres selon ses standards à lui. En fait, comme tu es rempli de son amour déborde de toi sur ceux qui sont autour de toi. Et cela est une preuve que ta foi est authentique et vivante. Et ce n'est pas fini, car avec son concours, tu deviens un véritable canal de son amour là où Dieu t'a placé, dans ta famille, dans ton travail. Dernière chose, et non des moindres, s'appuyer sur la puissance de Dieu. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, sa puissance de résurrection est à l'œuvre dans tes membres. Ça, c'est la partie 1 de Colossiens 3. Mais également, sa puissance de résurrection est également à l'œuvre dans tes relations. Et à lui, rien n'est impossible. C'est l'exemple du fils prodigue qui a vu sa relation avec son père transformée lorsqu'il a pris conscience de qui il était et de comment son père l'aimait. Pour conclure, quand on devient chrétien, on a envie de faire des grandes choses pour Dieu. Ça n'a pas été votre cas ? Ça l'est pas toujours ? Et très souvent, Dieu nous ramène aux choses du quotidien. Et en premier ordre, les relations que j'entretiens dans ma propre famille. Notre véritable identité se révèle avec nos intimes, ceux qui nous côtoient tous les jours. Vous voulez savoir qui je suis vraiment ? Demandez à Aurore. Demandez à ma mère, à mon frère, à mes enfants, papa pique, bref. Notre foyer et par extension nos proches sont des outils dans les mains de Dieu pour nous changer. Sachons relever le défi. Une dernière citation qui est vraie, quel que soit. Sachons relever le défi. Une dernière citation qui est vraie, quel que soit le type de relation dans lequel nous avons à travailler. C'est une star du grand écran qui avait connu plusieurs mariages ratés et qui a dit dans une interview « J'ai renoncé à chercher la bonne personne. Maintenant, je m'emploie à devenir la bonne personne. » Que Dieu vous bénisse. Amen.